Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
175e épisode du guide de l'auto, Germain, peux-tu croire?
Oui, je peux le croire.
Hein? Ça commence à être une routine. Là.
Ça commence à être une routine qui s'est bien installée là, le samedi matin à 10h, j'ai l'impression.
Alors, bonjour tout le monde. On est le 16 juillet. On va recevoir en deuxième partie d'émission le président de l'ARPAC, M. Simon Matt, qui va nous parler de recyclage de pièces automobiles. Pour commencer, ben, peut-être, on va parler de Honda, de Toyota, certainement, parce que...
Ce sera l'année Honda, j'ai l'impression, là.
Ben, il est temps, parce que ça fait plusieurs années qu'ils n'y en ont pas.
C'est pas l'année de Honda,
c'est
ouais.
Ça. Bon, on a dévoilé officiellement cette semaine le ô combien excitant CR-V 2023. Certainement, bon, vous aurez compris ma pointe de
il y a un peu d'ironie là-dedans, oui, oui.
C'est un véhicule extrêmement pragmatique sur le plan visuel, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est finalement disponible en version hybride et ça arrive là, très, très, très prochainement. Là.
Oui, donc nouvelle génération pour 2023. Tu parlais d'un design un peu générique et d'une approche très pragmatique. Il suffit de regarder 2-3 photos pour...
Il suffit d'imaginer un Volkswagen Tiguan, oui. D'enlever tous les éléments qui font qu'un Tiguan peut être joli, puis ça donne un CR-V.
Puis c'est ironique parce qu'il y a pas si longtemps de ressembler à un Volkswagen Tiguan de première génération, ça aurait été un beau compliment. Là, ça l'est peut-être un peu moins.
Les formes sont très semblables. On l'a énormément grossi, le CR-V. Les portes arrière sont gigantesques.
Mais déjà, le modèle sortant était assez gros. Là, c'est encore plus long, encore plus large. C'est un peu spécial. Mais la grande nouveauté, parce que au chapitre mécanique, on conserve le même moteur, 4 cylindres, turbo compressé. C'est 1,5 litres, donc rien de révolutionnaire, on s'entend, même si c'est là depuis un petit moment. La grande nouveauté, c'est l'ajout d'une version hybride. Donc ça, enfin, on l'aura au Canada, parce qu'on se rappelle que c'était vendu aux États-Unis, mais que Honda au Canada n'était pas intéressé à vendre cette déclinaison-là du CR-V, ce qui était bien dommage, parce que pendant ce temps-là, les autres VUS compacts ont pris la balle au bon. Ce que je déplore malheureusement, c'est que la version hybride sera réservée à la version Touring, c'est-à-dire...
Uniquement. Ça c'est très ordinaire.
Okay. Donc, autrement dit, vous allez payer cher pour la version hybride. Chez Honda, nous a pas dévoilé non plus l'échelle de prix. Donc, à quoi ça ressemblera? À quoi ressemblera le coût d'acquisition de l'hybride? C'est une bonne question.
Bien et au-delà surtout, des 40 000 $ ça c'est certain. Parce que, en réalité, on reprend essentiellement une mécanique actuellement utilisée dans l'accord hybride. Donc un moteur 2 litres avec évidemment
deux moteurs électriques, côte à côte.
Bon,
bref,
c'est sûr que c'est pas la même moteur électrique parce qu'on a un rouage intégral qu'on n'a pas dans l'accord. Mais il en demeure pas moins que la combinaison technique est semblable. Même dans la Honda Accord, si vous voulez avoir une hybride, il faut aller dans les hautes sphères de la gamme. Honda a une stratégie vraiment curieuse avec cette technologie-là, d'autant plus que du côté de chez Hyundai et Toyota, on propose des hybrides dans plusieurs gammes.
Même chez Ford, effectivement. Avec l'Escape, qui est assez efficace.
Escape SE hybride, tu as absolument raison. Donc, est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied? Sauf qu'Honda...
En fait, j'ai l'impression qu'on est carrément sur une autre planète chez Honda, parce que on offre la version hybride juste avec le Touring, et on imagine que ce sera la moitié des ventes. Alors, est-ce que ce sera parce qu'on ne sera pas du tout intéressé à vendre des versions d'entrée de gamme et qu'on n'en aura pas en inventaire. Je ne sais pas. Mais on s'attend à vendre la moitié... on s'attend à ce que la moitié des CR-V vendus soient des Touring hybrides. C'est un peu intense, là.
Bien, faut dire que Honda, s'il y a une entreprise où on a vu les prix exploser depuis 2-3 ans, c'est bien chez Honda. On peut le constater avec le nouveau HR-V.
On y reviendra dans quelques minutes.
La Honda Civic qu'on vendait à partir de 18 000 $ il y a 2-3 ans part à 28 000 $ aujourd'hui.
C'était possible d'obtenir une Civic sous la barre des 20 000 $ Il n'y a pas si longtemps.
Là, c'est difficile d'en avoir une sous les 30 000.
C'est considérable.
Parce que, soit dit en passant, une Civic de base chez les concessionnaires, il n'en pleut pas.
Non. Et c'est fait au Canada, là. C'est rien de bien.
Mais on ne veut plus vendre de voitures bon marché chez Honda. On a décidé de niveler vers le haut sévèrement, mais pas avec une stratégie qui ressemble à celle de Mazda, par exemple.
Mm-hmm. On n'a pas de véhicule plus premium.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Mazda va nous amener des produits qui nous donnent l'impression d'aller jouer dans le luxe et qui vont permettre de justifier une certaine hausse de prix qui, ironiquement, n'est pas si élevée que ça par rapport au passé. Alors que du côté de chez Honda, c'est du pareil au même. Nouvelle génération, on change la stratégie, ça coûte 5 000 de plus. Si t'es pas content, prends-les pas, puis ça s'arrête là.
On est très indépendant.
Et conséquemment, Germain, c'est quoi les chiffres qu'on dévoilait il n'y a pas longtemps? 36 % de baisse de vente chez Honda aux États-Unis pour cette année par rapport à l'année passée. Aïe aïe! Alors, est-ce que c'est une stratégie qui va fonctionner? Moi, j'ai bien hâte de voir, mais je suis persuadé que le CR-V va perdre de sérieuses parts de marché parce que t'as un Tucson qui est très agressif. T'as un
Sportage, oui, voilà.
Qui est très agressif. Et Ford, même si on a eu des problèmes d'approvisionnement, bon, on a eu quelques problèmes de fiabilité aussi. Ford a quand même un Escape hybride qui est très convaincant pour notre marché du Québec.
Là, pour 2023, on s'attend à quelques changements pour l'Escape. Ouais. Soit dit en passant, on n'a pas plus de détails, mais...
Tu as Nissan qui fait bien avec le Rogue. Bon, je ne suis pas convaincu du nouveau moteur, mais les ventes de ce modèle-là vont bien. Mm-hmm. Mitsubishi prend des parts de marché. Ouais. On riait de Mitsubishi, mais avec le nouvel Outlander, on prend des parts de marché sérieuses. Attendez-vous à ce que ce soit encore plus impressionnant avec le PHEV. Honda amène un hybride, c'est correct, mais je veux dire, t'aurais pas pu pas l'amener, puis tu me le sers juste dans ta version à 47 000 $
On innove d'aucune manière.
C'est ça. Et en plus, le design est très insipide.
Oui.
Mais je suis persuadé que ça va bien aller.
Oui.
Qu'il
y aura de la place à l'intérieur.
Que ça va être mieux insonorisé, etc. À suivre, là. Mais j'ai vraiment hâte de voir d'abord quelle va être la réponse de la clientèle pour la version régulière.
Oui.
Et si on va pas élargir la gamme de modèles hybrides, parce que selon moi, ça va être nécessaire. C'est pas vrai en cette période-ci où l'économie est incertaine que tout le monde va accepter de dépenser 47 000 ou 45 000 $ sur un CR-V hybride tout équipé en cuir avec tous les systèmes d'assistance, ce que tu voudras. Moi, j'y crois pas, là.
Puis le système Honda Sensing, c'est pas comme s'il allait si bien que ça en plus.
C'est pas comme si t'en voulais, en fait.
Effectivement. Bon. Autre nouveauté cette semaine chez Toyota, on a dévoilé la Crown.
Et ça, c'est une drôle de surprise.
Quand j'étais à Plano, au Texas, il y a peut-être un mois environ, on nous avait caché dans une salle complètement fermée et on nous avait dévoilé deux véhicules dont on ne pouvait pas parler, on pouvait pas prendre de photos. Et un de ces deux véhicules-là, c'était effectivement la Crown. Et on s'est tous regardés. Le véhicule hybride.
Ça commence-tu par P puis ça finit par S?
Oui, le véhicule par excellence hybride chez Toyota.
Oh, oui, okay.
Mais ça commence par P puis ça finit par Ius.
C'est ça, OK.
mais je pense que c'est pas un très grand secret.
Non.
Et c'est ça, un des deux véhicules, c'était effectivement... la Crown, et on s'est tous un peu regardé avec les sourcils en accent circonflexe parce que ça ne reprenait pas l'image qu'on pouvait avoir de la Crown
Il faut d'abord expliquer ce que c'est la Crown pour Toyota. Là.
C'est le véhicule emblématique au Japon. C'était la grande berline de luxe.
En fait, c'est la Toyota Crown pour le marché japonais. Et peut-être l'équivalent de la Ford Crown Victoria pendant des décennies chez Ford, c'est-à-dire la grande berline traditionnelle.
Mais véhicule emblématique, oui, là. Il y a une aura autour de ce véhicule-là. Il y a un respect qui lui est voué aussi. Mais malheureusement, au Canada, on ne l'a jamais eu. Et là, on a éliminé la très excitante Avalon.
Également sur le marché américain.
Également sur le marché américain, parce que là, on l'avait gardé une année de plus. Bref, on ne s'attendait pas à ce qu'on tente d'aller réintégrer ce marché qui est peut-être encore un petit peu présent aux États-Unis, mais au Canada, c'est assez mort, là, on va se le dire.
Puis la nouvelle Crown, c'est une berline aux formes assez particulière. Là.
Oui, parce que quand on la regarde trois encore avant, on peut s'imaginer que c'est un véhicule à haillons, comme pourrait l'être une Subaru Outback, par exemple, ou la défunte Honda Crosstour, ce qui n'est pas un compliment, soit dit en passant.
Oui, parce que bon, il faut peut-être expliquer que la Crown, ce n'est pas une berline traditionnelle. Elle est un peu haute sur pattes.
À l'allure un peu cross-country, mais sans trop de cladding.
Ouais.
Mais avec la partie arrière qui est très fuyante, mais c'est une valise fermée, comme une berline.
Okay.
Parce qu'on va être certain d'en vendre aux États-Unis, j'imagine. Ouais. Mais c'est très... très moderne, ça ressemble pas à grand-chose d'autre.
Ben, je trouve ça rafraîchissant, moi. Oui. Ironiquement, là, dans un paysage où on nous fait que lancer... Tu sais, on parlait du CRV tantôt, là. Si tu veux un getaway car, achète ça, c'est parfait.
Oui.
Mais une Crown, c'est différent. Ça va être polarisant, clairement, mais c'est différent.
Et c'est rare ces dernières années où on nous a dévoilé des véhicules qui ne venaient pas concurrencer directement un autre véhicule. Là, on arrive un petit peu au milieu de nulle part avec cette Crown-là. On n'est pas capable d'identifier précisément quelle sera la concurrence. Bref, c'est assez particulier.
C'est uniquement de l'hybride?
Oui, uniquement l'hybride. Bon, merci de me faire clore cette première parenthèse. On aura un moteur. C'est la technologie hybride qu'on connaît déjà très bien.
RAV4,
2,5 litres avec deux moteurs électriques et une CVT. Donc là, rien de bien compliqué. Mais il y aura une version Platinum avec le système hybride Max. Et là, ce sera le moteur 4 cylindres, 2,4 litres, turbo compressé avec la technologie électrique. Donc ça devrait être assez prometteur, là.
Bon.
On n'a pas nécessairement là, les cotes, les prix.
Est-ce qu'on sait quand ça arrive?
Ben plus tard cette année, là. Donc on n'a pas de. On n'attendra pas 10 ans après ça. Là. Chez Toyota, on nous la dévoile maintenant, mais c'est un modèle 2023, donc possiblement que les premières unités arriveront d'ici la fin de l'année. J'espère que chez Toyota, on va arrêter de dévoiler des nouveaux modèles hybrides et commencer à livrer les modèles hybrides qu'on a déjà en catalogue, parce que ça commence à être un sérieux problème.
Ouais.
Non, mais je veux bien là, qu'on arrive avec... un Sequoia, puis un Tundra, puis là, une Crown hybride. Mais est-ce qu'on peut livrer des Highlander puis des RAV4 à monsieur, madame, tout le monde qui est tanné de payer 2$ le litre? Voilà.
Bon, c'est un bon point. En même temps, il faut aussi comprendre que si ça semble particulier pour nous de nous faire dévoiler une grosse berline hybride qui n'a peut-être pas de marché chez nous au Canada, bon, d'abord... Moi, je pense qu'on va être surpris du succès d'un produit comme celui-là, mais aux États-Unis, ça va être la folie furieuse.
J'imagine.
C'est certain. Parce que faut comprendre que si nous, on excuse-moi l'expression, mais on capote avec le prix de l'essence actuellement, vous n'avez pas idée à quel point aux États-Unis, c'est actuellement le sujet de l'heure. De payer plus de 5$ le gallon aux États-Unis, ça fait extrêmement mal. Et j'arrive des États-Unis où...
Où tu as dépensé quelques dollars en essence,
En essence, ben, je te dirais que dans la majorité des États où j'ai circulé, le gallon variait entre 4$ et 4,75$. Mais en Californie, tu es à 6,50$ le gallon, ce qui revient en convertissant à plus de 2$ le litre. Alors pour eux, c'est une catastrophe, ça fait extrêmement mal.
Donc les Américains seront plus friands que jamais.
Et ce produit-là va connaître beaucoup de succès là-bas parce que contrairement à nous, on continue d'acheter des berlines.
Oui.
Au point où je suis passé, Germain, et je voulais le mentionner, je suis passé devant un concessionnaire Chrysler dans la région de l'Arizona où on avait en stock une vingtaine de Chrysler 300.
Oh, wow!
Alors, des berlines 300 en stock chez un concessionnaire aujourd'hui.
20, pas une.
Pas une, au moins une vingtaine.
Qu'on t'a dompé
ça, ça exclut les Charger, les Challenger qui avaient aussi en stock.
On en
avait de toutes les couleurs, de toutes les versions. Il y a du marché pour ça aux États-Unis. Et aussi drôle que ça puisse paraître, Chrysler fait de moins en moins de fleet aux États-Unis avec ces véhicules-là. On en fait encore, bien sûr, mais on en fait
Parce que c'est pas très payant, là. C'est bon pour augmenter tes chiffres de vente, là, mais c'est pas très payant.
Bien, on en fait encore, mais moins qu'avant, et c'est Nissan qui actuellement prend le marché. Écoute, des Nissan Altima de location, il y a ça partout sur la route aux États-Unis.
Et c'est drôle incroyable. Parce qu'au Canada, on avait un peu abandonné cette stratégie-là de la flotte chez Nissan parce que, justement, c'était pas payant. Mais aux États-Unis, on conserve cette stratégie-là.
En espérant que Toyota, avec sa Crown, ne fasse pas de même, mais ça, je pense pas que ça va arriver.
Non.